La théologie, il y a une quarantaine d'années, cinquantaine d'années, a pris un tour plus séculier, sous le titre de la théologie de la libération. J'ai demandé au frère Emmanuel Perrier si, d'abord ce que c'était que la théologie de la libération, si elle était désuète, si elle était dépassée, et qu'elle soit dépassée ou actuelle, quels enseignements théologiques pourrions-nous en tirer pour donner des pistes de réflexion sur le combat contre la pauvreté. Alors je remercie mon frère de venir à la Sainte-Baume. Le frère Emmanuel Perrier fait partie du couvent de Toulouse, qui est aussi le studium des dominicains, là où les frères se forment à la théologie. Frère Emmanuel est professeur de nombreux traités théologiques, dont non pas des moindres, puisqu'il est, par exemple, il est professeur de la théologie trinitaire, et il est professeur de la théologie de l'Eucharistie. Et puis, il a commis deux travaux scientifiques importants, en plus de toutes les publications dans différentes revues, notamment la revue Thomiste, mais il y a bien des revues où il a collaboré. Donc son mémoire que vous avez en vente ici sur la fécondité en Dieu, et puis une thèse de doctorat qui a été particulièrement remarquée. Je le dis parce que, si vous voulez, le frère Emmanuel fait partie de ces géants, j'ose le mot. Voilà, il a une certaine envergure. Il fait partie de ces géants que l'ordre porte, ou peut-être que l'Église aussi, mais... Il a fallu que je pousse la porte du monastère pour les connaître. C'est-à-dire que il y a un travail de fond qui est fait parmi certains de nos frères, qui est assez exceptionnel, et évidemment qui ne rejoint pas un immense public. C'est difficile de publier sa thèse dans le journal de la vie, même à grand tirage. Bien que le frère Emmanuel soit capable évidemment de s'adresser à tous. Donc je le remercie vraiment profondément de venir, au même titre que le frère Augustin ou que le frère Jean-Thomas ou que le frère Maxime, ce sont des universitaires de métier, et en plus d'être des frères et des pauvres qui cherchent Dieu, de venir nous enseigner sur ce point très précis de la théologie de la libération. Merci, frère Emmanuel, d'être parmi nous.
Alors, pourquoi évoquer la théologie de la libération, c'est-à-dire un mouvement qui est né il y a un demi-siècle en Amérique latine, aujourd'hui, en France, dans une université d'été consacrée à la pauvreté? À vrai dire, enfin, je ne sais pas si vous voulez être posé, moi je me suis posé la question. Non pas qu'il n'y ait aucun rapport, évidemment, mais... Parce que c'est quand même une affaire assez lointaine maintenant, lointaine géographiquement, lointaine dans le temps, lointaine peut-être aussi idéologiquement, mais en même temps, la réflexion, je me suis dit que si la théologie de la libération avait des raisons d'être évoquée aujourd'hui, cela pouvait être pour les enseignements que nous pourrions tirer de cette expérience. Parce que la théologie de la libération insère de nombreux aspects, la politique et la religion, l'action et la réflexion, la foi et l'idéologie, la justice et la charité, et tous ces éléments, ils restent pour nous des éléments qui nous touchent. Et donc peut-être que, c'est de cela que je voudrais parler, peut-être que nous pourrions tirer quelques enseignements pour nous aujourd'hui de ce grand mouvement qui est né en Amérique latine. J'aborderai cette question en trois temps. D'abord, peut-être rappeler un petit peu de quoi il s'agit. Donc, la naissance et l'extension de ce mouvement, en essayant de comprendre ce qu'il recèle. Hein, la fois, je ferai une petite fresque un peu historique, mais je veux surtout aller dans le cœur de ce qui a fait ce mouvement. Dans une deuxième partie, je m'intéresserai plus aux problèmes qui ont été soulevés. On ne peut pas tout faire, je ne pourrais pas dire, rendre peut-être une justice à la théologie de la libération sur ce qu'elle a accompli et les côtés positifs de ce qui a pu être fait en son nom. Mais je vais me concentrer plutôt sur les difficultés. Qu'est-ce qu'il y avait comme problème de fond, problème théologique, philosophique, dans ce mouvement, et qui a fait ce qu'il est devenu. Et puis, troisième partie, j'essaierai justement d'en tirer quelques enseignements actuels pour aujourd'hui. Donc, tout d'abord, naissance et apogée d'un mouvement chrétien. Et tout d'abord, quelques éléments sur les origines. Dans les origines, on a d'abord des influences extérieures. La théologie de la libération apparaît dans les années 60, en tout cas elle mûrit dans les années 60, elle surgit à partir de 1968-69, et elle s'inspire, elle est fécondée par de nombreuses influences intellectuelles ou politiques, notamment des influences européennes, et pour la France, par les expériences des socialistes chrétiens des années 30, des prêtres ouvriers au début des années 50, de la CFTC d'après-guerre. Et elle a aussi des vecteurs d'influence. Ce qui va apporter ces idées, ce sont d'abord les missionnaires européens qui ont été formés en Europe et qui viennent dans les pays d'Amérique latine, qui ont besoin de prêtres, d'abord comme missionnaire, ensuite comme prêtre Fidei Donum. Et puis on a aussi un mouvement d'échange, c'est-à-dire de clercs de l'Amérique latine qui viennent se former dans les grands centres européens, Paris, Louvain, en Allemagne. Et puis enfin, troisième type d'influence, je dirais les théologiens à fort rayonnement, un peu comme le cobalt radioactif. Là, il y a des théologiens à plus ou moins fort rayonnement. Et en l'occurrence, dans les années 60, 50-60, les théologiens à fort rayonnement sont des théologiens de rupture. De rupture, il y a eu un avant, et maintenant il faut vivre autrement, il faut faire autrement. Je pense ici à Edouard Skilbeck, Karl Rahner, et puis en France, Marie-Dominique Chenu, Yves Congar. Chacun dans leur genre. Mais pour autant, toutes ces influences ne font pas de la théologie de la libération un produit d'importation. C'est simplement qu'il va y avoir une très grande part d'idées et de manières de connaître et de manières de comprendre qui vont s'insérer dans un contexte politique particulier. Donc la théologie de la libération n'est pas un produit d'importation. Au contraire, elle naît dans des circonstances particulières. Et je voudrais en noter trois. La première, c'est la situation de jeunes nations, jeunes, pas si jeunes que ça, mais en même temps, qui ont quitté l'État colonial depuis finalement peu de temps, et qui ont été laissées dans leur État post-colonial dans des situations de fragmentation. Fragmentation ethnique, culturelle, sociale, économique, et ce sont des nations en quête d'unité. Et du reste, on voit aujourd'hui qu'on est loin encore, dans les pays d'Amérique latine, d'avoir trouvé des situations de stabilité politique où on sent que la population a trouvé une certaine unité. Donc on a un soubassement très fragmenté. Et puis, à partir des années 50-60, on entre dans les décennies du, entre guillemets, développement du tiers-monde. Développement des pays du tiers-monde, qui est, je dirais, le recyclage du colonialisme sous d'autres formes, sous d'autres moyens, c'est-à-dire que, à la place d'occupation politique ou militaire, on va développer du commerce, on va maintenir des pays sous une certaine tutelle économique, sous un certain avec la carotte du développement, et ces pays assujettis vont entrer dans ces dynamiques de développement. Hein, on va leur vendre des produits, des modes de développement, des moyens de développement, et ces pays vont à la fois accéder à une autonomie, à une promesse d'autonomie, mais en acceptant en même temps d'entrer dans l'ère industrielle et donc de reconfigurer leur société. De sorte que on voit, à partir de cette époque, on voit dans des sociétés qui étaient déjà très fragmentées, une mutation vers des grandes métropoles, vers des zones industrielles, vers une exploitation des richesses, qui va provoquer un exode rural massif avec une accumulation de population aux alentours des métropoles dans des bidonvilles, la dislocation de sociétés de subsistance, là où on avait des sociétés qui existaient depuis des siècles, elles ne peuvent plus subsister. On voit se mélanger des communautés qui auparavant vivaient de manière distincte et chacune dans son coin, donc communautés de déracinés. On voit une surexploitation des ressources avec donc les nouvelles promesses de développement économique qui vont avec et qui se font au détriment des petits exploitants non propriétaires. Et troisième élément de rupture de cette époque, c'est la rupture entre un monde dit libre et un monde communiste. Bien. Et le phénomène du développement, donc, produit, en même temps qu'un certain développement économique, c'est évident, en même temps que des aspects tout à fait positifs, comme l'alphabétisation, produit aussi un développement de déséquilibres nouveaux, profonds, qui traversent des sociétés déjà fragmentées. Et ces mutations sont tellement importantes qu'elles justifient que apparaisse une opposition qui va, je dirais, simplifier les choses, qui va être plus dominante, qui va être la séparation entre une classe de pauvres et des riches. Je dirais, aujourd'hui, pour la version actuelle, entre les gagnants et les perdants dans la mondialisation, on a des sociétés qui sont déconstruites par la base, par ceux qui subissent, et puis au contraire d'autres qui bénéficient de ce mécanisme, et on a une opposition, une fracture dans ces sociétés entre deux mondes qui s'ignorent. Et dans ce contexte, les chrétiens vont devoir s'adapter. Et beaucoup de prêtres, de laïcs, vont s'investir pour aller aider, soutenir ces nouveaux quartiers, ces nouvelles populations, ces défavorisés qui se retrouvent en groupe, mais qui n'ont pas de solidarité naturelle, pas de solidarité politique. Donc, il y a tout un effort à la fois pour apporter Dieu à des populations qui sont déracinées, et en même temps aussi regrouper, essayer de donner une solidarité, de faire entrer dans la dynamique du développement, de faire que des personnes qui sont en train de décrocher, d'être exclues de la société, puissent se réinsérer et réaccrocher au mouvement de développement. De là, trois traits de la théologie de la libération. Le premier trait, c'est ce que je puis dire, le terreau de cette théologie. C'est un terreau de délitement social. Délitement social, des liens traditionnels, des liens avec la terre, des liens de société, de solidarité, et qui appelle une réponse à la fois spirituelle et politique. À la fois spirituelle et politique. C'est ça ce qui est le grand enjeu pour les personnes qui s'investissent dans ces milieux, ça va être de reconstituer à la fois le spirituel et le politique. Et cette nouveauté, cette action nouvelle qui se fait, suscite des questions, une réflexion sur les causes. Premier aspect, l'aspect de lien entre spirituel et politique et social. Ce lien va être théorisé, où on va dire, nous voulons un développement intégral de la personne, où les deux sont liés, spirituel et politique, spirituel et social. Et donc, toute séparation des deux, toute tentative de dire, moi je suis prêtre, je viens pour faire prier le rosaire et après je m'en vais. Eh bien, cette manière de se replier dans le spirituel est vécue comme une trahison. C'est-à-dire que celui qui ne s'investit pas dans le social, dans la solidarité, dans la constitution de liens politiques, est celui qui se rend complice de l'abandon de ces personnes. Ce que résume Gustavo Gutiérrez, un des grands penseurs de la théologie de la libération, en disant, concrètement, il n'existe pas deux histoires, une histoire profane et une histoire sacrée, juxtaposées ou étroitement liées. Il existe un unique devenir de l'homme assumé de manière irréversible par le Christ, Seigneur de l'histoire. C'est l'homme tout entier auquel nous nous adressons. Et cet aspect, ce trait-là, n'est pas une nouveauté en Amérique latine, je veux juste le souligner, c'est que l'idée qu'il faut civiliser pour christianiser est une idée qui date déjà de la colonisation du XVIIe, XVIIIe siècle, et ici, ce sera non plus civilisé pour christianiser, ce sera libéré pour christianiser. Il faut même, dans la libération, c'est là que se trouve la christianisation des populations. D'où le fait que la réflexion sur cette expérience est une réflexion de ce qu'on va appeler la théologie contextuelle. C'est-à-dire, je suis dans ma situation et ma situation m'enseigne à ce que Dieu attend de moi et ce que je dois faire pour les autres. Cette expérience communautaire de précarité sociale est donc un terreau pour faire de la théologie. Et ceci va conduire à un rejet de la théologie antérieure, parce que cette théologie antérieure ne part pas de l'expérience communautaire. Si l'expérience communautaire, c'est le vrai point de départ de la théologie, à ce moment-là, toute théologie un peu abstraite, un petit peu par des cours et voilà, un peu théorique, va apparaître comme déconnecté de cette réalité. Il faut partir de cette réalité concrète, cette expérience communautaire. À nouveau, Gustavo Gutiérrez, au lieu de partir seulement du donné de révélation et de tradition, comme la théologie classique l'a fait généralement, il faut partir ici d'un donné de faits et de questions reçus du monde et de l'histoire. Les faits et les questions que nous pose notre expérience du quotidien. Je passe au second trait de la théologie de la libération. Second trait, c'est l'appel à donc une nouvelle méthodologie de théologie, une théologie inductive, on part de l'expérience, et ce qui signifie que, à la place de l'orthodoxie, c'est-à-dire l'enseignement des vérités de la foi, on privilégie ce qu'on va appeler l'orthopraxie, c'est-à-dire la juste perception des réalités du monde. Et cette juste perception des réalités du monde, pour l'avoir, cela suppose d'avoir une grille de lecture. Quelle grille de lecture va-t-on appliquer à notre expérience de fracture sociale, de délitement social, de manque de solidarité? Et à ce moment se présente ce qui était la vulgate de toutes les sciences sociales. Si vous voulez comprendre comment fonctionnent les sociétés, les crises des sociétés capitalistes, il faut regardez la grille de lecture marxiste. Et donc, les théologiens de la libération vont se tourner vers la grille de lecture marxiste, non pas parce qu'ils deviennent marxistes, mais parce que ils ont besoin d'une grille de lecture. Comment comprendre le monde dans lequel on est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette espèce de... Par exemple, vous êtes dans un bidonville, qu'est-ce que c'est que cette réalité d'un bidonville? Comment on n'est plus dans un village, on n'est plus dans une petite communauté, une petite société, une petite ville, on est dans un chaos, et d'où ça vient? Pourquoi il y a ça? Bien. Et la grille de lecture marxiste apporte une réponse qui est, eh bien, ceci est le fruit naturel du monde capitaliste. Car le monde capitaliste, c'est un monde de lutte entre des classes, deux classes, les opprimés, qui subissent une aliénation, puisqu'ils sont au service du capitalisme, et de l'autre côté, les possédants, qui exploitent les pauvres. Et donc, nous sommes dans une dialectique où nous sommes d'un côté, obligés d'être d'un côté. On n'a pas le choix, on n'a pas choisi d'être du côté des favelas, des pauvres, etc. Nous sommes donc dans cet antagonisme, cette dialectique qui est de l'opposition. Nous sommes dans ce camp des rejetés, des opprimés, des aliénés, et nous avons en face de nous cette classe dirigeante, possédante. Et il faut dire que cette lecture, elle possède une particulière acuité pour les sociétés d'Amérique latine. Et à quoi sert cette dialectique? Eh bien, elle permet de montrer que, en réalité, toutes les structures de la société, toutes les structures du pouvoir, ne sont là que pour maintenir cette lutte des classes. Prenez, je fais juste un petit parallèle. Aujourd'hui, vous pouvez très bien faire cette analyse-là sur la question, par exemple, des gilets jaunes, etc. Hein? Pourquoi est-ce qu'il y a ce monde médiatique, BFM, les services publics, etc. Ils pensent tous la même chose. Pourquoi? Ben, ce sont des relais du pouvoir. Ce sont ceux qui sont là pour maintenir le système. Ils sont pas là pour informer, ils sont là pour maintenir le système, faire de la désinformation pour maintenir cette oppression. Vous voyez? On peut tout à fait facilement faire cette... Alors, cette grille d'analyse, elle conduit à, puisqu'il s'agit d'une dialectique, et d'une dialectique impossible à résoudre, elle conduit au rejet de toute autre solution que là, le changement, le renversement de la lutte des classes. Il faut mettre à bas un système, il faut faire une révolution, il faut donc la radicalité. Troisième trait de la théologie de la libération, elle est une relecture théologico-politique de la Bible. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce cadre, qu'on a mis en évidence la structure d'oppression dans laquelle nous sommes, dans notre petit monde, notre petite société, eh bien, on va pouvoir dire, mais finalement, c'est exactement ce qu'il y avait dans la Bible. Nous voyons dans la Bible exactement l'expérience que nous vivons. Ainsi, la Bible présente un contexte social et un contexte dans lequel on voit une communauté d'opprimés. Ainsi, les pauvres d'aujourd'hui s'identifient aux pauvres du Seigneur. Ils doivent se libérer de l'aliénation, exactement comme les Juifs étaient esclaves en Égypte et ont dû se libérer de l'esclavage. Ils sont le peuple de Dieu en marche vers la terre promise. Et cette terre promise, évidemment, c'est la terre promise du vrai développement. Ils sont prophétiques de la libération de l'homme. Ce qu'est la libération de l'homme, c'est ce petit peuple juif qui le montre. Donc, de même, nous devons montrer la voie de la libération de l'homme en renversant les structures politiques. Jésus lui-même nous a montré le chemin de la libération. Et sur la croix, il n'est plus un vrai homme, il n'est plus vraiment homme, comme le pauvre n'est pas un vrai homme, et parce que il est défiguré, l'homme est défiguré, c'est l'homme de la croix. Et puis on donne un nouveau sens à la conversion. Qu'est-ce que c'est que se convertir? Se convertir, c'est de ce que je suis non-homme, je me convertis en devenant un homme au sens plein, au sens plénier, un homme nouveau. Et les communautés de base qui vont se former, de ces hommes nouveaux, de ces hommes conscientisés à leur conscience de classe, vont être la nouvelle communauté de Jésus, l'Église véritable, des hommes nouveaux. Bien. Si on synthétise ces trois étapes, la libération consiste dans l'ordre à ce que, premièrement, on identifie des aspirations de classe. Premièrement. Et ça, c'est la première étape. C'est celle qui conditionne la suite. Puisqu'on est dans une théologie contextuelle, il faut commencer par l'analyse sociale. Les aspirations de classe, quelles sont-elles? Deuxième étape, comment sortir, comment se libérer de ces oppressions que l'on voit apparaître dans les aspirations de classe. Prenez le cas des Gilets jaunes, où vous faites des réunions, vous faites sortir, hein, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut pour être libéré? Et puis, troisième étape, ce processus de libération, c'est, on va appeler cela une libération du péché. On va identifier le péché à ce à quoi on échappe quand on est libéré. De sorte que le péché central auquel on échappe quand on est libéré, c'est un péché collectif. C'est le péché des structures sociales qui oppressent la classe des pauvres. Je cite à nouveau Gustavo Gutiérrez, « Le péché fait partie des structures oppressives de l'exploitation de l'homme par l'homme, de la domination et de l'esclavage des peuples, des races et des classes sociales. » C'est une définition sociale du péché. Alors, je vois que l'heure tourne, je vais passer sur les grandes étapes. Disons que on est passé le grand début de la théologie de la libération, je dirais, c'est la conférence du CELAM, de la conférence épiscopale latino-américaine, en 1968, à Medellín, qui va être le point de départ de cet essai, qui va très rapidement rencontrer les aspirations du départ, où on se disait le développement c'est pour demain, on s'est assez rapidement aperçu que ça serait peut-être pour après-demain et peut-être pour le mois ou dans quelques décennies. Et ensuite, on a commencé à voir des effets pervers de cette théologie de la libération, des dévoiements apparaître. Et à partir de 1975, on voit que tout le monde essaye de freiner, hein, de mettre un peu la pédale sur le frein, parce que le mécanisme s'est emballé et il va progressivement devenir hors de contrôle. De sorte que, en 1979, pour la troisième conférence épiscopale à Puebla, Jean-Paul II va encore essayer d'être positif tout en mettant un peu les freins, mais à partir de là, il va y avoir un processus de retrait pour essayer de sortir d'une ornière qui va être très mal perçue, qui va provoquer des très graves divisions, parce que beaucoup de personnes engagées, et certaines pour la plupart de bonne foi, engagés dans cette théologie de la libération, ne vont pas comprendre pourquoi on leur demande de discerner et de mettre un frein à l'expérience. Donc je passe sur ces périodes difficiles, mais je voudrais me concentrer maintenant sur les dévoiements. Les dévoiements, je vais m'appuyer ici sur la lettre de l'instruction de la Congrégation pour la doctrine de la foi en 1984, qui s'appelle Libertatis Nuntius, sur quelques aspects de la théologie de la libération. C'est le premier texte, il y a deux textes complémentaires, mais je m'attarde ici sur le premier. Et ce texte apporte des critères de discernement. Il est, je pense, équilibré. Avec le recul, me semble-t-il, il est équilibré. À l'époque, il a été pris pour une canonnade venant du Vatican sur les théologiens et sur la théologie de la libération en général. Avec le recul, je pense que c'était plutôt des digues, on posait des points de repère pour faire comprendre où était le problème. Premier, si on repart de notre condition expérience, nous sommes dans ce contact avec les pauvres, nous vivons avec les pauvres, disant, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a à la fois spirituel, matériel, politique, solidaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et est-ce que c'est pas là que se trouve la première expérience de Dieu? Réponse, oui, mais à condition de discerner. Il faut, dans toute aspiration à la justice, dans toute aspiration à une reconnaissance de dignité, il faut que cette aspiration soit éclairée et guidée. Sinon, on n'échappera pas aux idéologies. Et sinon, on va se tromper et tromper tout le monde. Et en l'occurrence, pourquoi est-ce que le recours au marxisme, à la grille d'analyse marxiste, a été une erreur? D'abord, pour la question du marxisme. Oui, parce que ça conduit à une opposition irréductible, un antagonisme de classe, une dialectique qui ne se résout que par la violence. Mais d'autre part, parce que c'était demander une grille de lecture purement sociale à un problème humain et qui donc comportait d'autres dimensions. On a d'emblée, en voulant réduire le problème à une question sociale, on a d'emblée privé la réponse de toute la part d'attention à la personne, à la personne concrète, à ses besoins spirituels notamment, à ses attentes spirituelles, et on s'est de la sorte empêché soi-même d'apporter une bonne réponse. Et ce sur quoi insiste le texte, c'est sur ce renversement, c'est-à-dire le moment où on a mis le doigt dans cette grille de lecture de sciences sociales, on a accepté de tout définir à partir de là. Et ça va très très loin. Ça commence par une redéfinition du péché. Je vous ai dit, redéfinition du péché, le péché n'est plus un mal que l'on commet qui offense Dieu et le prochain. Le péché, c'est d'abord une structure collective qui conduit à l'oppression. Donc plus de responsabilité personnelle, plus de conversion personnelle. La conversion personnelle, c'est en réalité une conscientisation à la lutte des classes. Mais il y a pire, c'est que, en fait, on va toucher à la conception de la justice et de la vérité, parce que tout simplement, si ce qui est premier, c'est l'insertion dans une classe, à ce moment-là, moi qui suis dans ma classe des opprimés, je suis celui qui connaît la vérité des choses. Le riche en face ne peut pas la connaître, puisqu'il n'est pas dans la classe qui ouvre à la vérité de la situation sociale. Et donc, comme dit le texte, la conscience vraie devient une conscience partisane. C'est la conception même de la vérité qui est en cause et qui se trouve subvertie. Et de la même façon, puisque ce qui précède toute réflexion, c'est la coupure, l'opposition des classes, eh bien, il suffit d'être dans le bon camp pour être du bon côté, dans le camp du bien. Il suffit d'être du côté des pauvres pour penser juste, pour penser droit, pour penser vrai. Et par conséquent, là, il n'y a plus en réalité de capacité à surmonter des divisions au sein de la société, puisqu'au contraire, on va les alimenter en considérant que nous sommes de la classe qui sait ce qu'il faut pour la société et qui est même chargée de l'obtenir. Et puis, cela va aller encore plus loin. On va aller dans des compréhensions de la lutte sociale comme une rédemption de l'homme. On va voir dans le développement ou dans la libération le but même de la vie chrétienne. Le christianisme est là pour apporter la libération sociale, politique aux hommes. Et il n'est que cette avant-garde de ceux qui mènent l'humanité vers une complète libération politique. Le texte souligne encore que les vertus théologales en viennent à être réinterprétées. Par exemple, la foi n'est plus une foi en Dieu. La foi va devenir une fidélité à l'histoire. Parce que l'histoire, c'est l'histoire du développement, de la libération de l'homme des structures oppressives. De même, l'espérance est changée, requalifiée, en confiance dans le futur. Puisque nous sommes dans le combat de classe, dans le combat de la libération, eh bien, nous avons confiance dans l'avenir. Le futur sera rose. Et puis la charité, ça devient l'option pour les pauvres. Oui, mais l'option pour les pauvres, on oublie le codicille, c'est la charité, c'est l'option pour les pauvres, donc le refus de toute charité envers un riche, envers quelqu'un de l'autre classe. La charité n'est plus pour tout prochain. Elle est sélective, cette charité. Elle n'est plus universelle. Elle est au contraire partisane. Et puis, cela va plus loin, cela contamine derrière la théologie de l'Église. Gustavo Gutiérrez va dire dans son livre « Théologie de la libération » que Gustavo Gutiérrez, c'est quelqu'un qui est resté un vrai catholique, hein, qui est resté avec une vraie foi, etc. Mais il a pas tout de suite vu aussi les limites hein, de son discours. Et notamment, il a dit « Mais vous vous rendez compte, avec cette conscience, avec cette opposition, cette injustice que nous vivons, comment pouvons-nous célébrer des eucharisties avec des riches ?» C'est une trahison de l'eucharistie. C'est-à-dire, je ne peux pas célébrer, alors je le cite, je ne peux pas participer à la même célébration eucharistique si je suis un opprimé et que je célèbre, je vis cette eucharistie avec un oppresseur. Que dans la même célébration eucharistique, il y ait celui qui torture et celui qui est torturé. Ça n'est pas possible. Et donc, la célébration eucharistique devient scindée en deux. Il y a l'Église des pauvres qui, elle, vit la vraie Eucharistie et qui laisse l'Eucharistie des riches de l'autre côté. Mais cela va plus loin encore. L'Église elle-même est divisée en deux. Car le clerc, qui n'est pas avec les pauvres, est contre les pauvres. Et donc je n'ai pas à l'écouter. Si la vraie Église, c'est l'Église des pauvres, à ce moment-là, la vraie Église, elle n'est pas dans la succession des apôtres, la succession apostolique. Hein ? Il y a une coupure avec l'ordre apostolique, puisque la vraie Église, c'est celle qui naît de la société de l'Église des pauvres. Je finis par quelques enseignements. Ça va plus loin encore, ça va jusqu'à la christologie, si je voulais dire, on retrouve cela dans la christologie même, la conception de la christologie, dans lequel le Christ n'est plus vraiment Dieu, il est homme, c'est-à-dire que tout ce qui est de sa nature divine a été en réalité absorbé dans sa nature humaine. Le Christ n'est plus qu'un modèle de vie humaine accompli au service de la libération. Et donc on retrouve ça même dans la connaissance, dans la foi au Christ, c'est-à-dire qu'il y a une hérésie au Christ. Bien. Je voudrais qu'elle tirait maintenant, pour finir, quelques enseignements.
J'ai droit. Oui, tu as le droit. Non seulement tu as le droit, mais...
Je ne veux pas vous lasser non plus. Hein.
On a le devoir.
Bien. Quelques enseignements. Il me semble que la théologie de la libération, l'épisode de la théologie de la libération, nous oblige à nous poser la question, quel salut attendons-nous ? Quel salut attendons-nous ? Est-ce que c'est, par exemple, l'éradication de la pauvreté ? Est-ce que c'est le jour, pour reprendre l'expression de Philippe Muret, pour un monde sans caries ? Est-ce que c'est ça, la fin de la vie humaine, c'est un monde sans caries ? Nous n'en avons pas fini...
Ils n'ont pas compris le mot caries.
Sans caries, les dents. Pour un monde sans caries. Voilà. Hein, on n'a plus mal aux dents. Excusez-moi. Ce que je veux dire, c'est que nous n'en avons pas fini avec l'illusion de l'auto-rédemption de l'homme. On a pourtant, depuis deux siècles, fait un certain nombre d'expériences. Hein. On en a des millions de morts et des charniers sur le mythe de l'auto-rédemption de l'homme. Mais non, c'est pas fini, il faut qu'on continue. Et ceci implique que tous les mythes d'auto-rédemption, c'est-à-dire les mythes dans lesquels on vous dit « c'est pour demain hein, », courage, plus que quelques morts, nous sommes juste à un millier de morts du but, donc ça vaut la peine d'y avancer. Et l'autorédemption de l'homme, elle se les mythes d'autodérédemption ont besoin que nous soyons dans le tout politique. Tout l'homme est saisi par le politique. Et ça me rappelle cette phrase des disciples d'Emmaüs à Jésus qui ne voient pas, et, enfin qui n'ont pas reconnu. Ils disent, mais nous espérions qu'il allait rétablir la royauté en Israël. On veut que le Christ vienne apporter la vie avec Dieu, mais oui, mais c'est bien ça, mais nous, on préférerait quand même qu'il y ait un bon roi qui gouverne sur Israël. Ça serait plus clair, plus net, ça nous plairait plus. Vous voyez? Et ces mythes d'autorédemption, donc, vont absorber la totalité de l'homme dans la politique. D'où les expériences de totalitarisme. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes dans une bonne phase d'entrer dans un nouveau totalitarisme, puisque tout ce qui est de notre personne, petit à petit, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y a pas grand-chose qui échappe aux politiques. Hein? Et du reste, le point de repère de ça, c'est que il faut que vous ayez une revendication, sinon vous n'existez pas. Hein? C'est-à-dire que le transgenre doit être reconnu par la société, sinon il ne peut pas exister. Comme si l'existence dépendait de la société. Il fait dépendre son existence de la société. Aujourd'hui, les personnes demandent à ne dépendre que de la société. Hein? Ils remettent toute leur vie entre les mains de la société, ils s'auto-aliènent dans la société. Donc, je pense que nous sommes dans une phase qui est tout à fait comparable. Dans les années 50-60, c'était l'idéologie du développement. Aujourd'hui, on est dans un autre totalitarisme, plus soft, plus mou, plus doux, avec beaucoup plus de promesses de douceur et de réussite, notamment en matière de santé, de transhumanisme, mais qui, en réalité, sont toujours eu un mythe d'autorédemption politique. Et ces mythes d'autorédemption du politique ont pour conséquence, parce qu'ils sont très puissants, ils absorbent le christianisme, ils se nourrissent du christianisme. Et pour les chrétiens qui sont un peu fragiles, qui n'ont pas cette boussole de se dire « attention, je suis face à un monde totalitaire, il ne faut pas que je me laisse piéger », eh bien, ils entrent à fond en pensant que ce mythe politique va accomplir les desseins même de l'Église. Qu'on va être beaucoup plus chrétien, ça va être tout à fait compatible avec ce que l'Église, ce que Dieu veut. Et pourquoi est-ce que c'est une pente facile pour des chrétiens? Ben, je crois que le fond, c'est que la pente est facile parce que il est toujours plus facile de vouloir changer la société que de vouloir se convertir. Changer les autres, c'est un programme sur lequel on a une vue assez claire de ce qu'il faudrait. Vous voyez? Il faudrait, pour que le monde aille mieux, que les autres commencent par changer. Vous voyez? Et il y a des problèmes, c'est les autres. Vous voyez? Et donc, à ce moment-là, au lieu de la conversion, immédiatement, on passe au schéma politique, à la visée politique. C'est beaucoup plus facile de partir dans la politique, surtout quand on a donc cette mythologie en face de soi. Face à cela, il faut se poser la question, ou plutôt se rappeler peut-être cette phrase du Christ, « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Non pas ce que je veux, non pas mes aspirations, mais ce que toi, Seigneur, tu veux pour l'homme. Non pas ce que moi j'attends de Dieu, ce qu'il va me donner, le développement intégral, un monde sans caries, enfin, etc., mais ce que Dieu veut nous donner. Et de sorte que je ne pas instrumentaliser Dieu, ce n'est pas Dieu fait pour l'homme, mais c'est l'homme qui est fait pour Dieu. Et c'est pourquoi partir de mon expérience et de mes aspirations est trompeur. Parce qu'à ce moment-là, je réduis tout à moi. Je ramène tout à ce que je suis. Je deviens incapable de recevoir ce que Dieu veut me donner et qui est infiniment plus grand que ce que moi j'attends. Je crois que c'est le grand danger de cette théologie contextuelle où on part de mon expérience, on part de mes attentes. Oui, c'est bien, c'est important les attentes, les expériences, c'est important de les exprimer notamment. Mais ce qui libère, c'est le jour où j'entends Dieu qui me parle et qui me dit, mais ce vers quoi je t'emmène est infiniment plus grand que cela. De surcroît, je dirais que un des dangers de partir de ces expériences où on part de soi-même, c'est que quand on part de l'expérience humaine, on est très facilement manipulable. C'est ce qui, moi, m'a frappé, l'expérience que j'ai, mais un peu postérieure, hein, des années 90, des années 2000, pardon, donc c'est tardif, de théologie de la libération, ce sont des expériences dans lesquelles, en réalité, vous avez des moniteurs de groupe qui sont là pour faire prendre conscience au groupe de son statut de classe, de son oppression, de sa libération, mais en réalité, qui sont là pour manipuler, pour dire « voilà ce dont vous avez besoin ». Moi, j'ai vu des groupes dans lesquels les gens attendaient qu'on leur organise une prière et une procession, et où on leur disait « non, on va pas faire ça, on va prendre conscience de notre oppression de classe pour pouvoir faire de l'action sociale ». Vous voyez ? Bien. Peut-être, juste pour finir, j'ai beaucoup de choses, mais pour finir, je pense qu'il faut toujours se poser, et ça c'est la force du christianisme. Le christianisme nous libère justement de ces réductions politiques, de ces projets politiques prométhéens, parce que nous avons l'arme de la charité. C'est Dieu qui nous donne la charité, et cette charité, c'est elle qui nous fait voir la misère chez mon prochain. C'est la charité qui me fait ouvrir les yeux sur mon prochain. Et alors que, vous voyez, la version marxiste, c'est « je vous donne une recette technique pour savoir qui est le pauvre ». C'est très simple, à l'époque de Marx, vous prenez la classe des ouvriers. Le monde ouvrier, c'est la classe des opprimés. Aujourd'hui, où le marxisme s'est recyclé dans nos sociétés, le marxisme a perdu, si je puis dire du point de vue, le combat des géants politiques, mais il s'est reconverti en déconstructeur de nos sociétés. Donc aujourd'hui, la méthode, c'est simple, qui sont les pauvres? Ce sont les victimes, les opprimés. Si vous êtes dans le camp des victimes, vous êtes dans la classe des opprimés, vous avez donc tous les droits à faire valoir face à la classe des possédants. C'est cela aujourd'hui qui est en route. Et donc ça, c'est, je dirais, c'est la méthode, c'est la technique. Vous regardez qui est la victime. Donc c'est simple, vous avez une société de victimes, donc tout le monde est et c'est quand la société ne sera plus faite que de victimes, nous aurons gagné la lutte des classes. Nous serons morts, mais nous aurons gagné la lutte des classes. Alors, au contraire, la charité nous fait voir qui est dans la misère, qui est mon prochain, et quelle est sa misère, et de quoi a-t-il besoin. Et c'est très important, cette liberté à l'égard que nous donne la charité, qui est d'être toujours attentif à tous, parce qu'en tous, il y a mon prochain, et ce prochain qui a besoin peut-être de moi, à l'instant, là, peut-être. Voilà. Et cette charité, elle a un double fonctionnement, un double point de repère. C'est ce que nous lègue la première lettre de Saint Jean. L'amour de Dieu, c'est la condition de l'amour du prochain. Parce que c'est l'amour de Dieu qui, dans nos cœurs, nous fait aimer notre prochain. Mais, l'amour du prochain est la vérification de ce qu'on aime Dieu. Et c'est dans ce lien-là, cette complémentarité des deux commandements, l'amour de Dieu qui nous fait aimer le prochain, qui vient de Dieu et qui nous donne la charité envers le prochain, et l'amour du prochain qui vérifie la réalité de notre amour de Dieu. C'est dans cette complémentarité que nous trouvons, je crois, un fond, un roc pour toute action auprès des pauvres, dans le monde social, parce que c'est elle qui doit être le socle de notre vie chrétienne dans une société marquée par la pauvreté et qui va l'être de plus en plus. Je vous remercie.